j'ai un respect presque intime pour la Fnac. Ça, c'est des marques événementielles et la marque événementielle va permettre à ton client, avant même d'avoir acheté le billet, de se projeter. Et moi là, j'ai mis des stops. J'ai dit non. C'est juste qu'on n'a rien d'autre à faire pour le moment, donc on est en train de builder. Et en fait, si t'as une approche industrielle de tes process sales, la réalité, c'est que tu vas sûrement passer à côté d'infos hyper clés dans tes process. Ça demande une inventivité. Ça demande d'être capable d'aller se rendre à un événement. Il suffit qu'il y croit et il est capable de vendre n'importe quoi.
Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de l'agence Dreamcatcher Sales, agence experte en business développement. Nous partons à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et top performeurs pour explorer leur écosystème et vous rappeler que nous faisons le plus beau métier du monde, celui de remettre l'humain au cœur du business. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tristan Lecor, CEO de Shotgun, super solution SaaS et ticketing à destination des organisateurs d'événements. Tristan, ravi de te recevoir sur le plateau de We Are Sales.
Pierre-Michel, merci beaucoup pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Alors, en plus, j'ai la chance de te choper parce que je sais que tu es toujours entre la France et les US. Tu vas nous raconter ça. Tristan, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux rapidement te présenter ton poste, ton périmètre de poste, le nombre de collaborateurs et aujourd'hui, si vous travaillez en France, à l'international et sur quel pays?
Ouais, bien sûr. Donc, mon poste, assez simple, CEO et cofondateur de la boîte. J'ai deux cofondateurs avec moi. Donc, mon périmètre est assez vaste en tant que CEO. En fait, mon rôle évolue tous les ans en fonction de là où la boîte a besoin de moi. Aujourd'hui, c'est très principalement du business leadership, tous les sujets liés évidemment aux investisseurs, que ce soit la levée de fonds, les nouvelles levées, enfin, l'écoute history générale, la partie strat, la partie vision, bref, les grandes casquettes d'un CEO. En termes de nombre de collaborateurs, aujourd'hui, on va être à peu près 60 personnes, avec une répartition géographique 50% France, et le reste à l'étranger sur nos trois zones que sont US, Brésil et Portugal.
Alors Shotgun a double cible, à la fois B2C et B2B. Je te propose aujourd'hui qu'on se concentre principalement sur la partie B2B. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un peu plus en détail à quel problème répond Shotgun et qui sont les cibles commerciales finalement de votre solution?
Carrément. Ce que je te propose, comme tu l'as bien dit, c'est B2B, B2C. Je vais être un peu contrarienne dans ma réponse. Je vais te proposer de commencer par le B2C, comme ça on le met de côté une bonne fois pour toutes. Okay. Et on va vraiment focus le reste du temps sur le B2B. Parce qu'en réalité, Shotgun puise son ADN, puise son histoire dans le B2C. Okay. Pour la petite histoire, moi je rentre justement des US en France en 2014. Je sors énormément. Je sors dans, fan de musique que je sors dans beaucoup d'events. Et en fait, à l'époque, en 2014, ça nous paraît fou aujourd'hui. Mais tout simplement, il n'y a pas d'application de sortie. On ne peut pas acheter des billets sur son mobile à l'époque. Il n'y a pas d'application pour découvrir des événements, pour acheter son billet, pour les revendre. C'est des funnels d'achat en 46 clics. C'est monstrueux en fait. Et du coup, ça freine une nouvelle génération qui est la génération qu'on appelle expérientielle chez Shotgun, qui sort de plus en plus, impulsée notamment par la révolution de la mobilité urbaine. En gros, pour la faire très simple, avec Hitch, Uber. Tout simplement, les jeunes qui ne pouvaient pas réellement sortir avant, pour lesquels c'était une galère, d'un coup, bah, le vendredi, le samedi, c'est simple, tu appuies sur un bouton, tu vas à soirée A, puis si la soirée A ne plaît pas, tu fais A, B, C, etc. Donc en fait, Shotgun puise toute son ADN et toute son histoire dans le consumer, et c'est un peu ce qui fait la singularité de Shotgun, j'ai envie de dire, puisqu'on a vraiment démarré pendant de nombreuses années dans le consumer à essayer de comprendre d'abord quel était le problème du consommateur qui souhaite sortir, qui veut aller en festival, qui veut aller en soirée, qui veut aller en club. Et en fait, c'est cette proximité avec l'utilisateur qui nous a permis progressivement, en fait, sur les premières années de Shotgun, de construire le premier pilier de value proposition pour le B2B, qui est la proposition de valeur de distribution. Parce qu'en fait, c'est vraiment en comprenant tout ce qui va déterminer un acte d'achat qu'on a pu aller voir, en fait, le B2B, donc les festivals, et que je répète, hein, les festivals, les clubs, les soirées, bref, toute typologie de promoteur d'événements avec, j'insiste, une dimension live musique, et leur dire, voilà ce qu'on a compris de vos clients, et voilà comment est-ce qu'on va leur vendre des billets sur notre application.
Et ça, ces consommateurs, ils n'étaient pas satisfaits par ce que proposaient à l'époque les Fnac, etc., les acteurs du ticketing?
Mais écoute, moi, il se trouve que la Fnac, j'ai une relation particulière avec la Fnac, puisque quand j'étais petit, ma mère m'emmenait tous les mercredis après-midi à la Fnac, et je rêvais à partir de, j'avais 10 ans, je regardais, je me rappelle toujours, cette Fnac Châtelet, il y avait les events qui étaient posés derrière les caisses, et en fait, Voilà, je rêvais, je regardais les concerts, les Libertines, les White Stripes, Franz Ferdinand, c'était les années 2000, le début de la nouvelle scène rock, et je regardais les noms de ces concerts et je rêvais devant. Donc j'ai un respect presque intime pour la Fnac. Maintenant, la Fnac, depuis que j'ai 10 ans, n'a pas changé. Ça reste le même modèle. Donc maintenant, on est 20 ans plus tard, le paradigme a changé, les générations ont évolué, les comportements ont évolué, je t'apprends rien. Il s'agirait de grandir, pour citer un film que j'aime beaucoup. Bref, il s'agissait juste de construire un outil simple, ne serait-ce que pour découvrir et acheter un billet, ce qui n'existait pas à l'époque. Donc effectivement, pour ta question, c'est ça le premier problème auquel on a répondu, c'est de se dire, t'as des gens qui veulent sortir, il faut s'assurer qu'un maximum d'événements qui leur plaisent soient au même endroit, qu'ils puissent découvrir simplement en fonction de leur goût, en fonction de est-ce que leurs amis y vont ou pas. Un petit chiffre tout simple, dans l'acte d'achat, l'artiste et qui se rend à l'événement, à savoir tes amis ou pas, c'est 60% de l'acte d'achat. Bon, quand tu as cette info déjà, bah, la façon dont tu vas construire ton expérience de découverte sur ton application, bah, nécessairement, doit prendre en compte cette data. Tu vois. Donc c'est vraiment le premier point qu'on a adressé pendant de nombreuses années, c'est permettre à de nouvelles générations de découvrir et d'acheter des billets de façon ultra simple, ultra optimisée.
Donc vraiment digitaliser effectivement l'usage, simplifier, la moderniser, correspondre effectivement aux besoins. Et lorsque vous avez commencé donc cette aventure, puisqu'on prend la démarche du storytelling et j'aime beaucoup, quelle a été la réaction justement comment on dit, de ces programmateurs d'événements? C'est comme ça qu'on dit, un hein, programmateur d'événements?
Alors, il y a plein de
Organisateur
noms.
d'événements?
Ouais, donc tu peux dire organisateur pour simplifier,
Ouais, ok.
et comme ça recouvre vraiment toutes les personnes qui se sentent concernées par la programmation d'événements. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que de la même façon que tu as eu un énorme changement générationnel dans la décennie 2010, avec l'émergence de cette génération dont je viens de parler, pour laquelle sortir est devenu un mode de vie. C'est-à-dire que d'un coup, tu as des jeunes qui, comme ils sortent de façon très régulière, toutes les semaines, tous les week-ends, parfois plusieurs fois par soir, mais en fait, pour ces jeunes-là, la sortie prend un nouveau sens. Tu vois, ma génération, je vais avoir 35 ans cette année, ma génération, c'est la sortie occasionnelle, de temps en temps un festival, de temps en temps un club, de temps en temps ton groupe préféré qui passe dans ta ville, tu vas au concert. Là, on a une génération qui sort bien plus régulièrement et pour laquelle, du coup, sortir va avoir une dimension de construction de communauté, de construction d'identité. Et du coup, très concrètement, les promoteurs en face, les organisateurs d'événements, vont devoir répondre progressivement à cette nouvelle demande, à cette nouvelle typologie de demande. Un truc tout bête, aujourd'hui, les jeunes qui sortent vont se poser des questions du genre, c'est quoi le système son de la soirée? C'est quoi les valeurs de telle ou telle soirée? Est-ce que tel ou quel comportement va être valorisé ou non? Et en fait, on a des experts aujourd'hui, et du coup, les promoteurs, on parle des années 2017, 2018, ont été obligés de s'adapter, et en fait, de créer des expériences qui vont répondre, qui ont dû répondre à ces attentes-là.
Okay. Et donc création extrêmement positive. Devait y avoir de l'évangélisation ou ils étaient déjà en demande de ce type de solution?
Il y a eu, en fait, quelque chose qui a propulsé la croissance de Shotgun, c'est que cette génération-là qui s'est mise à sortir s'est mise à produire elle-même ses soirées. Donc, en fait, l'évangélisation, et c'est pour ça que j'ai insisté pour commencer avec le B2C, l'évangélisation a commencé côté B2C. C'est-à-dire qu'on avait des jeunes, 20, 22, 23, 25 ans, qui ont découvert la sortie dans ces années-là avec Shotgun, ont découvert que ce soit du clubbing, que ce soit la soirée un peu underground dans une warehouse de banlieue, que ce soit ce genre de soirée-là, qui se sont dit, bah, pourquoi pas moi? En fait, je vais apprendre à mixer, je vais visiblement Shotgun, c'est assez simple pour vendre des billets. Je vais créer ma soirée, je vais créer mon premier event, je vais utiliser Shotgun et je vais vendre mes premiers billets. Donc en fait, la réalité, c'est qu'on a découvert le B2B via notre base utilisateur au début. Tu vois. Et c'est ça le secret un peu des débuts de Shotgun, c'est que tout est parti de cette compréhension, cette nouvelle génération qui, en sortant, a elle-même souhaité participer à la création de la supply événementielle, de l'offre événementielle sur ces années-là.
Ok, et au fil des années, est-ce que justement le business model a évolué? Est-ce que c'était sur un pourcentage des tickets vendus? Est-ce que c'était sur un abonnement pour pouvoir accéder à la plateforme? Ou c'est resté effectivement assez linéaire?
On est resté sur un business model marketplace, à savoir une commission sur la transaction, une commission sur la vente de billets, tout simplement. Ouais.
Et c'est un marché qui est très concurrentiel?
Alors, c'est un marché concurrentiel, le ticketing. Je dirais, tu vas avoir une propension à l'arrivée de nouveaux concurrents assez forte, effectivement. Maintenant, ceux qui perdurent, il y en a à la fin assez peu. Donc, c'est une concurrence assez singulière en réalité.
C'est un marché très concurrentiel ?
C'est un marché concurrentiel.
Et comment on se démarque justement vis-à-vis de cette concurrence ? C'est quoi finalement la proposition de valeur que tu peux mettre en avant pour leur dire mettez vos billets en exclu ou sur notre site en priorité ?
Ça part de la vision. Tu vois, effectivement, on va les nommer, sur un écosystème comme la France, tu vas avoir, on va dire, plusieurs typologies de concurrents. Tu vas avoir la vieille garde, donc on en parlait, tu vas avoir Fnac, tu vas avoir Citiquette, anciennement Digitique, France Billet, tu vas avoir ces vieux acteurs-là. Ensuite, tu vas avoir des acteurs, à l'inverse, vraiment de nouvelle génération, dans lesquels on peut inclure Shotgun, on peut inclure un Dice, on peut inclure ce genre d'acteurs-là. Et puis après, tu vas avoir des acteurs comme Wiz Events, qui vont être des acteurs full marque blanche, comme on dit, qui vont être très orientés sur la partie software. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ta value proposition, généralement, tu vas soit l'ancrer sur le software, soit l'ancrer sur la partie B2C. Nous, Shotgun, au fur et à mesure des années, on est parti du B2C. Et puis progressivement, en comprenant les besoins, et on va y arriver, les besoins très complexes et différents d'un organisateur d'événements, qu'il soit petit, grand, que ce soit un festival, un club, un organisateur qui se lance, un organisateur qui arrive à sa crise de croissance. Bref, la réalité, c'est que sur cet écosystème, qui est un écosystème extrêmement hétérogène, les problèmes sont nombreux. Et nous, notre vision Shotgun, c'est que c'est au software ticketing de s'adapter en fait, aux multiples besoins des organisateurs et non pas d'imposer une vision au marché. C'est ce qui a fait notre différence avec beaucoup d'acteurs.
Ces organisateurs-là, ils sont très structurés, très organisés, où il y a beaucoup effectivement d'amateurs et il y a beaucoup effectivement de formation à faire sur ces organisateurs et de la valeur ajoutée à proposer par les plateformes.
Donc là, on rentre vraiment sur la question de l'hétérogénéité de ce marché-là. J'ai donné trois exemples pour vraiment simplifier la réponse. Tu vas avoir le festival historique, 10, 20, 30 ans d'historique. En France, on pourrait penser aux Vieilles Charrues, on pourrait penser au Printemps de Bourges. Là, on est sur une structure professionnalisée avec une équipe ultra claire, avec évidemment une direction, un directeur du ticketing, du marketing, de la communication. Tout est très structuré, tout est très professionnalisé. On est sur une structure pro par essence. De l'autre côté, tu vas voir effectivement ton client plutôt étudiant ou jeune stagiaire ou même jeune employé qui on the side est DJ et veut lancer ses soirées. Donc là on est sur l'amateur au sens noble du terme, pur et dur, qui va faire ça on the side sans volonté de réellement structurer un business. Puis après c'est un spectre. Entre les deux, tu vas avoir une multitude de différents players et typiquement, tu vas avoir le promoteur en croissance qui va se poser la question. Ça fait un an que je fais des events, je commence à vendre beaucoup de billets, je commence à faire un peu d'argent. Est-ce que je me structure ? Et en fait, Shotgun adore intervenir justement sur toutes les typologies de players que tu peux avoir sur cet écosystème-là.
Et là, vous n'êtes jamais posé la question de sortir effectivement une offre de prestations de services pour accompagner ces organisateurs d'events à scaler ?
Ah, j'adore que tu poses cette question.
En tant que CEO, j'imagine que tu as eu 36 000 idées de business model un peu...
Surtout pendant le Covid, ouais. À l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'activité. En fait, c'est la grosse tentation. En fait, quand tu es dans cet écosystème-là, tu as deux tentations en permanence. C'est faire tes propres events et c'est monter effectivement une offre servicielle. La réalité, c'est que l'offre servicielle, on l'a fait sans la structurer. C'est-à-dire qu'en fait, quand on spot dans nos clients des clients avec un potentiel énorme, on va structurer un account management bien plus fort avec de la data, du consulting, du marketing, visant à les propulser vers de nouveaux seuils de croissance.
Et justement, tu parlais du Covid. Ça a été quoi les différentes étapes de développement de la boîte ? Est-ce qu'il y a eu des triggers un peu marquants qui ont fait l'évolution de Shotgun ? Parce que ça fait 10 ans, hein, c'est ça que tu as lancé la société un peu plus ?
C'est la 10e année, 2024. On va fêter les 10 ans de l'incorporation en mai. Effectivement, tu as eu plusieurs phases. Si je devais vraiment résumer en trois phases, je dirais que tu as eu la phase Learn, 2014-2019. Ensuite, tu as eu la phase Build, qui est vraiment la phase 2020-2022. Avec évidemment le Covid au milieu, on pourra peut-être y revenir. Et là, tu as la phase Scale, qui est la phase en fait 2023 jusqu'à aujourd'hui. On est en février 2024. C'est vraiment les trois grandes phases. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est qu'on a vécu trois ans pré-product market fit entre 2014 et 2017. On ne savait pas trop ce qu'on faisait. À l'époque, moi, je rentrais de LA, j'avais travaillé dans un incubateur de start-up très consumer, d'où aussi cette volonté d'ancrer Shotgun dans le consumer. On voulait juste monter une app. J'avais 23 ans, mes co-founders aussi. on voulait monter notre app. C'était le début des apps. Il y avait Uber, Tinder, Snapchat, Instagram. On voulait la nôtre, quoi. Voilà, on va être très honnête. Et en fait, en découvrant progressivement cet écosystème-là, en étant nous-mêmes des énormes fans de musique et de live, on a ancré Shotgun dans cet écosystème-là, en apprenant d'abord la partie consumer et en apprenant ensuite la partie organisateur. Et c'est là que s'est structuré les premiers éléments de vision. Et les premiers éléments de vision, ça a été de se dire, en fait, un organisateur d'événements, à la fin de la journée, il fait trois choses. Un organisateur d'événements, il fait une marque événementielle. Pourquoi est-ce que c'est si hyper important? Parce qu'en fait, vendre des events, vendre un événement quand tu es organisateur d'événements, c'est parmi les choses les plus compliquées à vendre, si tu réfléchis bien. Pourquoi? Parce qu'un événement n'a pas encore eu lieu, tu n'as pas de commentaires sur Google, tu n'as pas des 5 étoiles, tu n'as pas de bande-annonce. C'est quelque chose où tu dois vendre du rêve en réalité. Et pour vendre du rêve, il te faut un proxy. Tu vois. Et ce proxy, c'est la marque événementielle. Et en fait, ta marque événementielle, ça peut être le Rex Club à Paris, ça peut être le Bergen à Berlin, ça peut être We Love Green, ça peut être... Ça, c'est des marques événementielles et la marque événementielle va permettre à ton client, avant même d'avoir acheté le billet, de se projeter, de visualiser l'événement. Comme je disais tout à l'heure, quel genre d'artiste va y jouer, quel genre de musique, le niveau sonore, le prix au bar. Toutes ces choses-là, c'est les éléments qui vont permettre de constituer une marque événementielle qui fait que quand une personne va voir ton événement, elle va être en fait OK d'acheter ton billet et de prendre ce risque avec toi. Une fois que tu as ta marque événementielle, ton deuxième boulot en tant qu'organisateur d'événement, c'est d'agréger une communauté autour de cette marque ou des communautés autour de cette marque. Et une fois que tu as agrégé ces communautés-là, tu dois les engager. En un mot, ça veut dire être capable de vendre des billets de façon organique, de ne pas avoir à payer trop de marketing pour vendre des billets. Et quand tu as une marque et une communauté, tu arrives au troisième pilier de travail en tant qu'entraînement, c'est de croître. Tu vois, une fois que tu as ces deux éléments-là, est-ce que tu es profitable? Est-ce que tu es pérenne? Est-ce que tu peux investir dans tes projets, investir dans tes systèmes son, investir dans tes équipes? Bref, est-ce que tu peux croître? Et en fait, Shotgun, on va essayer d'intervenir à chaque étape de cette croissance-là. Et ça, en fait, cette vision-là, c'est une vision qu'on a comprise progressivement dans la phase de learn. Une fois qu'on a compris ça, on est rentré dans la phase de build. On s'est dit, OK, bon, maintenant qu'on a compris ça, c'est cool. Mais en fait, notre objectif, c'est pas de faire des leçons. En fait, on n'est pas là justement pour faire du contenu, on est là pour faire du produit. Donc, comment est-ce que tu peux aller construire un software, justement, qui va répondre à ces besoins-là, à ces besoins organisateurs? Comment est-ce que tu permets de créer une marque, d'agréger une communauté autour de cette marque, de le faire en continu? Parce qu'en fait, à un moment donné, ta communauté, elle vieillit, elle change. Comment est-ce que tu restes connecté à ces communautés? Comment est-ce que tu mets en place des stratégies de ticketing qui vont en fait parler à ta communauté? Parce que tu ne vends pas un billet de la même façon à quelqu'un qui adore ta marque événementielle que quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. Pas au même moment, pas le même message, pas la même channel de distribution, pas le même prix, évidemment. Tout ça, comment est-ce que tu le transformes en produit? Donc, on a passé beaucoup de temps à investir dans le produit à partir du moment où on a compris en réalité tous ces éléments-là. Et à partir du moment où on avait ce produit-là, donc notre produit d'ailleurs s'appelle le Smartboard, côté B2B, on a pu en réalité rentrer en phase de scale, de sell scale. Et ça, c'est 2022-2023, et ce qui a propulsé Shotgun à des niveaux de business qui sont des niveaux de business de type scale. On est en plein dedans aujourd'hui et au poulie sur les années à venir.
Donc en fait, cette partie service, vous l'avez structurée finalement en je ne sais pas si c'est du SaaS ou pas, mais en tout cas en solution techno qui accompagne les organisateurs sur leurs différentes étapes de maturité. Et c'est quasiment un outil marketing finalement de lead gen pour ces organisateurs, pour fédérer de la communauté, mieux la comprendre, avoir les dashboards, etc.
Complètement. Donc pour répondre à ta première question, d'un point de vue visuel, on ressemble à un SaaS puisqu'on a un soft en ligne sur lequel tu peux te sign up, etc. Sur d'un point de vue plus en business model, on ne fait pas de subscription pour des raisons qu'on pourra évoquer. Maintenant, sur la partie résumé, effectivement, il y a une très forte dimension marketing. Première étape, déjà, juste on a une plateforme ultra robuste et fiable puisque c'est la base. En fait, quand tu as un événement, notamment quand tu as un gros ordinateur d'événement, en fait, ton outil de ticketing, c'est vraiment ton interface au réel. Donc, tu as toute une dimension de fiabilité, d'autonomie opérationnelle qui est hyper importante, qui est la fondamentale, qui fait que si tu n'as pas ça, on ne parle même pas du reste. Ensuite, tu as une dimension marketing, du marketing communautaire. Nous, ce qu'on va dire à un ordinateur, c'est tu as une audience, tu as des contacts. Comment est-ce que Shotgun va qualifier tes contacts pour que ça en fait, soit des segments spécifiques que tu puisses travailler d'un point de vue marketing communautaire? Et puis ensuite, comme tu disais, tu as la partie lead gen où effectivement, nous, ce qu'on va dire, tu as la plateforme Shotgun, l'application Shotgun où tu as nos millions d'utilisateurs qui interagissent. Et puis nous, on va t'aider à travers tout un certain nombre de features à aller chercher des audiences supplémentaires, des communautés additionnelles et même jusqu'à des pools de revenus additionnels, des revenus stream additionnels pour, in fine, et c'est notre vision, c'est la vision Shotgun, c'est comment est-ce qu'on transforme, in fine, nos promoteurs en organisation business pérenne qui n'ont besoin de plus personne pour tout simplement être sustainable dans le futur, et comment, vraiment vision macro, on transforme un écosystème en industrie. Et je pense qu'on a tous vu pendant le Covid ce qui se passait quand un écosystème n'était pas structuré et manquait en réalité de maturité business. On a tous vu le risque dans lequel on se mettait. Et nous, notre vision Shotgun, c'est comment est-ce qu'on... Nous, on prend les promoteurs au sérieux. On leur dit, comment est-ce que tu génères vraiment du business? Comment est-ce que tu deviens vraiment sérieux dans ta capacité à être pérenne? Et c'est vraiment là-dessus, nous, qu'on va vraiment insister et qu'on va structurer notre offre 360 côté soft.
Justement, comment vous l'avez vu, vécu le Covid pour vous? Parce que ça devait être une catastrophe incroyable.
Alors, le Covid a mis en exergue notre valeur numéro 1 chez Shotgun, qui est la valeur Warrior. Alors, je sais que Warrior, ça peut faire sourire, d'ailleurs, on est en train de se marrer. Mais en réalité, en fait, le Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a vu venir. Enfin, moi, la réalité, c'est que février, on voit très bien ce qui se passe. Donc, le 17 mars, quand tout s'arrête, on n'a pas été surpris. Premier confinement, en fait, on s'est appelé, Lucas Romain et moi, mes deux cofondateurs, en fait, on s'est parlé, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et là, en fait, on s'est regardé droit dans les yeux, on s'est dit, bah, on va pas s'arrêter de bosser. Hein. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a donné 2000 euros de prime à chaque employé en disant, we got your back. La deuxième chose qu'on a faite, c'est, bon, OK, il va pas y avoir des événements. On sait très bien que ça va durer. Le coup du mois, on attend que la courbe. Non, OK, c'est mort. 2020, c'est une année morte. On l'a pris comme un fait. Donc, on s'est dit, on va construire une plateforme en ligne qui va permettre aux organisateurs d'événements de continuer à faire des événements en ligne. Donc, on a construit en 3 semaines. On s'est dit, OK, on va développer, juste pour s'amuser, on va développer une plateforme juste pour danser en ligne. Ça s'est appelé This Dancing, avec, soyons honnêtes, aucune conviction qu'il fallait. Parce que là, on a eu des appels de VC qui nous disaient, trop stylé, vous avez digitalisé l'événementiel. Et moi, là, j'ai mis des stops. J'ai dit, non. C'est juste qu'on n'a rien d'autre à faire pour le moment, donc on est en train de builder. La réalité, c'est que ça a renforcé notre connexion avec l'écosystème, parce qu'on a continué à parler à cet écosystème, on a commencé à prendre le temps encore plus de leur parler, de comprendre leurs besoins, leurs envies, et ça nous a renforcé dans ce momentum du build où en fait on a eu plus de temps de construire vraiment du soft pertinent à un moment donné où il n'y avait plus les bug requests, les ops requests, enfin toutes ces requests qui font que ta roadmap produit est un peu perturbée. Après, on va pas se mentir, le Covid, c'était long, ça a été dur, on s'est pris un procès qu'on a gagné. On s'est posé beaucoup de questions, il y a eu des moments extrêmement chauds et puis il y a eu ce deuxième confinement qui nous a vraiment fait beaucoup de mal et qui nous a posé la question. À un moment donné, on s'est dit, OK, en fait, si ça rouvre pas, on fait quoi? Et il y a eu une soirée spécifique critique dans l'histoire de Shotgun, c'est janvier 2021, où en fait il y a plus d'espoir, plus d'événements, plus rien, un nouveau lockdown, aucune visibilité, pas de vaccin, rien. Avec mes co-fondeurs, on s'est retrouvés dans nos fameuses retraites fondeurs. On a dîné ensemble, beaucoup de vin, beaucoup de bouffe. Et à un moment donné, on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit, bon, est-ce que réellement on en a envie toujours là de repasser? Enfin, si en fait le Covid, on a pour 3 ans, est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Sans vraiment se le dire, on s'est un peu dit, OK, en fait, non, on n'en a plus envie. Et le matin, on s'est réveillé un peu, voilà, un peu fatigué. Et on s'est dit les choses, et on s'est dit, OK, la France, là, c'est bloqué. Fuck it, on part au Brésil, on part aux US. Et en fait, c'est pendant le Covid, au pire des moments de notre histoire, où vraiment on n'y croyait plus, qu'on s'est dit, bah, si la France est bloquée, OK, pas grave, on va lancer d'autres pays où c'est moins bloqué. Et ça a été le début de l'internationalisation de Shotgun. Et la réalité, c'est que dans les mois qui ont suivi, en février, on lançait le Brésil, en mars, on lançait les US, en avril, il y avait les vaccins, et en fait, après, ça a été l'explosion.
Ah, ça fait une sacrée histoire, effectivement, de résilience. Pourquoi le Brésil? Pourquoi les US? Comment vous avez fait votre choix entre deux bouteilles de rouge et le petit bijou du soir?
Alors, pourquoi le Brésil? Ce qui s'est passé quand on a sorti cette plateforme This Dancing, c'est que d'un coup, une plateforme This Dancing, je le rappelle, hein, pour danser en ligne, qui était marrant, il y avait des toilettes où tu pouvais dessiner sur les murs, il y avait un bar où tu pouvais acheter des consos, ben, bref.
Alors, on est créatif hein, quand on se retrouve confiné. Hein.
On n'avait pas grand-chose à faire, on s'amusait. Hein, notre équipe produit avait besoin de s'amuser un peu. Et en fait, bah d'un coup, c'était assez fou. On est devenu une boîte tech ultra tech et liquide en l'espace de 3 semaines, puisque d'un coup, notre produit il pouvait être utilisé sans sel, sans AM. Il pouvait être utilisé en Inde, au Nigeria, au Brésil. Et bah là, juste, les deux pays qui ont le plus utilisé e-dancing, c'était l'Inde et le Brésil. Bon. Et en fait, au Brésil, on est tombé sur une personne qui s'appelle Carole. Carole Matos, qui est DJ et qui est organisateur de soirée. Et en fait, on est rentré en contact avec elle. Elle nous dit, mais tout le monde adore Dizz Dancing. Tout le monde utilise trop Shotgun chez nous. Et on dit, ouais, on voit les datas. Effectivement, c'est un truc de fou. Et en fait, on a construit une relation avec cette personne-là. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, les plus gros pics d'activité, c'était Brésil. On s'est dit, mais quand ça va, quand les événements vont venir au Brésil, mais pourquoi est-ce qu'on ne bosserait pas en billetterie là-bas, en fait? Qu'est-ce qui nous empêche? Et en fait, ça a été pur opportuniste. Voilà. Et en réalité, on a construit une relation super forte. Et le Brésil, bah, en fait, c'est devenu notre plus gros marché. On a un product market fit qui est probablement supérieur. On a une attache à Shotgun qui est probablement supérieure à l'attache en France. Les gens adorent Shotgun là-bas. C'est vraiment notre pays chouchou, quoi, clairement. Les US, c'est une réflexion beaucoup plus business. Voilà, les US, c'est un marché, c'est le plus gros marché au monde en termes de live event. Moi, à titre perso, les US, j'y ai vécu 3 ans dans ma vie. C'est là où j'ai découvert le business, c'est là où j'ai découvert les startups, c'est là où j'ai découvert. Bref, c'est là où j'ai vraiment mes attaches d'un point de vue business ouais, d'un point de vue business. Et du coup, c'est d'un point de vue obvious business et d'un point de vue perso, c'était la destination où vous voulez se lancer. New York, LA, Miami, enfin voilà, je fais pas un dessin, c'est vraiment le lieu où il faut se lancer. C'était aussi le défi pour nous en tant que startup, c'est de faire quelque chose, faire que quelque chose arrive là-bas. Et du coup, c'était l'endroit où on a voulu aller nous prouver à nous-mêmes et aller prouver qu'on peut faire quelque chose là-bas.
Ok, l'ouverture de ces pays s'est faite depuis la France ou vous avez commencé directement par ouvrir des bureaux au Brésil, aux US, le market fit, tu l'as fait comment?
Ah, on y allait à fond. Mon associé, mon cofondeur Romain, a pris le dernier vol pour le Brésil qui était encore ouvert, à l'ancienne. Et puis on a ouvert les bureaux là-bas direct. En fait, on défend le live event. C'est notre métier. Donc en fait, la partie physique est fondamentale. Ce qui d'ailleurs fait qu'on est une boîte où il y a du remote, mais pas trop non plus. Dès qu'on ouvre un pays, il y a des bureaux, on rencontre les clients physiques. Enfin, c'est physique, c'est un milieu physique, c'est quelque chose qu'on défend. Dans un monde où l'entertainment est en train de partir en digital, on défend la présence physique, on défend l'événementiel, où en gros l'événementiel, c'est un événement qui a lieu une fois, une seule fois, il n'y a pas de replay. Donc en fait, nous, le physique, c'est fondamental. Donc dès qu'on lance un pays, il y a un commitment physique, il y a un commitment présentiel, il y a un commitment de bureau. Bref, c'est une présence. C'est une présence, ce game.
Et là, à l'heure actuelle, vous êtes structuré comment justement au sein de la société, en termes de market, en termes de sales, en termes de partnership?
Est-ce que tu peux préciser ta question?
Justement, pour faire tourner une boîte comme Shotgun, comment elle se structure? Est-ce que vous avez une grosse équipe sales pour aller négocier avec des organisateurs d'événements ou au final, ils sont bien identifiés, c'est des équipes plutôt réduites, mais par contre, il faut des grosses équipes de market. Comment c'est organisé chez vous en interne?
Ouais, alors, grosse partie de l'équipage, c'est une équipe produit qui va justement permettre aux sales de faire leur travail, parce que sans ce produit-là, en réalité, on a pas grand-chose à vendre. Donc, grosse partie produit, quasiment la moitié de notre équipe, c'est du produit. Et ensuite, derrière, effectivement, beaucoup d'équipes, une équipe business. On est sur ce qui va vraiment définir ce marché d'un point de vue B2B, c'est qu'on n'est pas du tout sur un marché où il y a beaucoup de volume. Tu vois, il n'y a pas des millions d'organisateurs. Ça se compte. Sur nos marchés, ça se compte en, allez, 100 000-ish, tu vois, aux alentours. Et les key accounts de stratégie sur lesquels tu vas avoir du sales process complexe, pareil, ça se compte en milliers, dizaines de milliers. Donc, on n'est pas sur une logique de volumétrie interne de sales. Donc, tu n'as pas des équipes de SDR ou de BDR. Voilà, on identifie des pipes très précis année après année. On identifie, en gros, les key accounts stratégiques sur lesquels il faut travailler cette année pour, en gros, exécuter notre stratégie de grosse derrière. Et du coup, ça donne une équipe où tu vas avoir quelques account executives qui vont vraiment travailler sur des sales process complexes, des sales dédiés mid-market. Et puis derrière, c'est tout ce qui se passe en réalité quand notre stratégie se met en branle, c'est qu'on a un effet domino qui va générer un inbound extrêmement fort. Et en fait, l'inbound, on le gère comme dans un SaaS, avec effectivement des gens qui gèrent de l'entrant, qui dont l'objectif c'est vraiment de maximiser l'activation, mais où le sales process est hyper rapide. Donc ça donne peu de volume en réalité en interne sur le nombre de sales impliqués.
Et tu sens des cultures business très différentes entre la France et les US, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet d'actualité. Après l'année 2023, on a vu une certaine tension sur le marché de la tech en Europe, et beaucoup maintenant cherchent à repartir à l'international et notamment sur des pays matures comme l'US. Quel reco tu ferais toi par rapport à ton expérience que tu as vécue?
Alors, il y a des différences business structurantes, inouïes, j'ai envie de dire, entre les pays. Et je pense que C'est vraiment les différences culturelles, c'est le plus gros challenge en réalité d'une boîte qui s'étend. Des recos, en toute humilité, je ne sais pas si j'ai vraiment des recos actionnables. Je vais juste partager quelques learnings. Le premier, je vais vraiment focaliser sur les US parce que c'est le pays que j'ai le plus fait moi-même. Le Brésil, ça a été vraiment, et ça reste l'ownership vraiment de mon co-founder. Aux US, la plus grosse différence, c'est qu'on a un pays, les US, qui est le pays de l'explicite, quand la France est le pays de l'implicite. Donc quand aux US, tu dis à quelqu'un, on va faire B, si tu lui dis pas qu'il faut aussi faire A, la personne va juste faire B. Donc ça peut poser énormément de problèmes. Alors qu'en France, bah, tu dis il faut faire C, la personne, on compte sur la personne pour qu'elle comprenne qu'il faut faire aussi A, A', B, etc. Donc en réalité, ça donne parfois des dialogues de sourds qui peuvent être extrêmement perturbants. Extrêmement perturbants, et du coup, ça peut dégrader les relations assez vite. Peut-être que j'ai enfoncé une porte ouverte. Le deuxième gros learning aux US, c'est que les relations sont. Beaucoup des relations sont avant tout transactionnelles. Si dans la balance, tu n'es pas capable de montrer très vite à la personne à laquelle tu parles ce que tu vas lui apporter en termes de valeur, la personne va te zapper. Et du coup, ça donne. Et moi, c'est ce que. Personnellement, c'est ce que j'aime beaucoup. Ce qui me relâche, c'est que. Ce qui me relâche au niveau mental, c'est qu'en fait, aux US, tu vas avoir des personnes. Tu vas avoir beaucoup de gens en fait qui vont. On le dit souvent, les US, quand tu vas aux US, les gens sont très sympas avec toi. Mais ils construisent pas de relations longues, etc. C'est pas forcément faux. Mais en fait, moi, la façon dont je le comprends, c'est que aux US, d'où que tu viennes, qui que tu sois, les personnes vont te donner ta chance parce que potentiellement, tu vas leur apporter quelque chose. Donc en fait, ils ouvrent leur champ des opportunités à 180. Ils veulent être ouverts aux opportunités. Et du coup, ça va donner effectivement une première approche. Une approche qui permet à l'opportunité de se présenter à eux. Parce que potentiellement, tu as de la valeur. Par contre, si très vite, dans la discussion, tu peux dire, by the way, je t'apporte ça, ça se referme. Donc, c'est pas de la méchanceté ou quoi, c'est juste la façon dont ils ouvrent le champ aux opportunités et le referment très vite. Donc, c'est pour ça que, d'un point de vue business, quand tu parles aux US, faut être sharp. C'est-à-dire, j'apporte ça, et en fait, ton elevator pitch, d'un point de vue sales, ton pitch, il doit être, mais béton de chez béton. T'as pas 3 heures pour faire ta qualif. Là, on va pour parler un peu sales, t'as pas 3 heures, t'as pas 3 meetings pour faire ta discovery, ton pitch, tu peux pas aller dans tous les sens, c'est ok, tu dois comprendre très vite qui tu parles, tu dois préparer ton meeting, comprendre très vite la personne ce qu'elle a besoin d'entendre, nailer ou ne pas, ou d'ailleurs, ou nexter, hein, ça dépend de ce que tu as besoin, et d'enchaîner très vite, parce que sinon la personne, elle passe à la suite.
Et là encore, sur tes expériences managériales entre des équipes sales en France et des équipes sales aux US, ça se manage de la même manière. Tu sens une technicité plus importante sur les US qu'en France, parce qu'on a souvent un peu, on prend souvent exemple sur les structurations des équipes sales aux US. Est-ce que tu penses qu'il faudrait continuer justement à le faire ou garder ces spécificités culturelles?
Alors, sur la partie structuration de team, je pense que je ne vais pas être hyper pertinent parce qu'on reste sur des équipes petites et justement, on n'est pas sur le SaaS classique, marché infini, marché de volume. Donc là, moi, là-dessus, je préfère rester assez humble et dire je ne sais pas. Je sais pas. Après, sur la technicité sales, personnelle, individuelle, en réalité, on se débrouille pas mal, je trouve, en France. On a notre façon de faire. On est à partir du moment, je trouve qu'il y a une curiosité française que je trouve dont les US pourraient s'inspirer. C'est-à-dire, en fait, aux US, t'as un peu le côté je fais ma qualif, je fais ma discovery, je pose toutes mes questions et je passe à la suite. Alors qu'en France, il y a plus de place pour laisser. C'est plus facile de laisser place à une discovery intelligente où tu vas vraiment rentrer sur les challenges un peu deep de ton prospect. Alors qu'aux US, c'est vrai qu'il y a un côté un peu industriel et quand tu es sur un écosystème comme le nôtre, à savoir un écosystème où, un, beaucoup d'hétérogénéité, deux, un système où il y a le culturel, l'artistique est hyper important, trois, ton persona en face de toi, c'est pas un persona cadré, c'est-à-dire que c'est pas ton, par exemple, c'est pas ton head of market, c'est pas ton comptable, c'est un promoteur d'événements. En fait, un promoteur d'événements, ça peut être un DJ, ça peut être un businessman, ça peut être une responsable market, ça peut être une responsable artiste, bref, ça peut être n'importe qui. Donc, tu dois avoir une adaptabilité, une intelligence émotionnelle beaucoup plus forte. Et en fait, si tu as une approche industrielle de tes process sales, La réalité, c'est que tu vas sûrement passer à côté d'infos hyper clés dans tes process.
Je passe sur un tout autre sujet, mais parce que je vois que le temps avance et je voulais te la poser. Il y a 2-3 ans, dans le secteur du ticketing, tout le monde parlait de la blockchain à toutes les sauces. Ça fait pchit. Est-ce que c'est un sujet effectivement chez vous? Est-ce que cette techno pour vous a un futur? Tu t'attendais pas à cette question.
Non, je suis.
Hein. Mais on en a tellement parlé, je me souviens, il y a 1 ou 2 ans, dans les incubateurs, les accélérateurs, tu avais plein de nouvelles solutions de ticketing par la blockchain, etc., qu'il fallait absolument que je te la pose.
Perso, je reste fasciné par cette techno. Et même s'il y a un down, je trouve que les promesses restent incroyables. En réalité, les promesses de la blockchain, je les trouve incroyables. Et effectivement, aujourd'hui, c'est passé de mode. Après, la question aujourd'hui, pour la big picture, c'est est-ce que, en fait, on est dans la fameuse courbe d'adoption et en réalité, si tu zoom out. En fait, on est juste retombé, mais pour une croissance beaucoup plus hors fashion. Moi, je pense que c'est plutôt ça le scénario. Donc, maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que c'est un sujet chez Gueule en ce moment? Pas du tout. Les deux sujets, nous, on s'est fait approcher énormément, on y a réfléchi. Les deux sujets qui étaient les sujets pour le ticketing, c'était un, blockchain pour la revente. Parce qu'effectivement, la revente, le marché secondaire, c'est un énorme problème. Il se trouve que nous, chez Shedgun, on a la revente intégrée qui est ultra sécurisée parce que tu restes sur la même plateforme. Donc en fait, toutes les approches qu'on a pu avoir sur la blockchain à cette époque-là, bah, on les envoyait un peu, on les nextait un peu parce qu'on disait non mais nous, c'est le même QR code, c'est le même barcode, donc en fait, t'apportes pas réellement de sécurité additionnelle, donc next. Et le deuxième sujet, c'était comment est-ce que tu monétises avec ces fameux sujets de NFT. Le problème des NFT, c'est que ça, dans tous les sujets de blockchain, c'est quand même le sujet qui a le prix le plus cher récemment à cause des dingueries qu'on a pu voir. Donc c'est vrai qu'on a un peu nexté le sujet aussi. Maintenant, est-ce qu'on va arriver dans un monde où tu fais un drop de billets, où ton billet t'apporte un accès exclusif? Franchement, je mettrais pas ma main à couper que le sujet est mort. Maintenant, est-ce que là, sur les 2-3 prochaines années, ça va être un sujet pour nous? Je pense pas.
Justement, dans 10 ans, Shotgun, ça ressemble à quoi pour toi? Est-ce qu'il y aura dans 10 ans, tu vois une offre de valeur différente que celle actuelle? Est-ce que tu vois un marché qui va complètement se transformer? Est-ce que tu penses que ça va être finalement juste une amélioration de votre communauté, mais qu'en soi, le live event ne va pas forcément bouger et se transformer? C'est quoi un peu ta vision prospective de ces prochaines années?
Première chose, encore une fois, je reste hyper humble depuis le Covid sur les sujets de vision. Le Covid, c'est quand même l'apprentissage que le réel a toujours raison et que ta vision, pour citer Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'au jour où il se prend un pain dans la tronche. Et c'est devenu ma vision, ça. Maintenant, deux approches à cette question, une approche bottom-up ou interne to externe et externe to interne. Interne to externe, c'est nous aujourd'hui, on a structuré la team pour innover en permanence. On a des équipes produits qui sont voilà, qui n'ont qu'une envie, c'est de sortir la next feature, de comprendre le prochain problème. Donc, si tu pars de cette hypothèse-là, ouais, tu compares le truc dans 10 ans chez Gun, dur de dire à quoi ça va ressembler, mais une chose est sûre, c'est que ça ne ressemblera pas à ce que c'est aujourd'hui, et on aura bossé pour aller toujours essayer de débloquer les problèmes des ordinateurs, débloquer le problème en réalité de cet écosystème-là, de cette industrie-là, qui est l'industrie du live event. Maintenant, moi, la vision. Vraiment à 10 ans, donc 10 ans, ça nous emmène en 2034. La vision, c'est de se dire que le monde aujourd'hui, c'est un monde dans les sociétés occidentales où l'entertainment prend de plus en plus de place. Et l'entertainment, tu peux le diviser en deux. Tu peux le diviser d'un côté avec l'entertainment digital. Tu sors ton tel, tu scrolls, pour simplifier. Tu ouvres ta télé, tu zappes, tu vas sur Netflix, etc. C'est le Netflix and chill. Et moi, ce soir, je vais probablement rentrer à un moment donné et me regarder une série. J'ai rien contre ça, hein, c'est pas du tout le sujet. Et de l'autre côté, tu vas avoir un entertainment physique. Nous, on défend l'entertainment physique parce qu'il a une singularité qui est que, justement, tu peux pas le zapper, tu peux pas scroller. Quand tu es dans un event, tu es obligé d'y être, tu peux pas être dans deux events à la fois. Et il y a une singularité, il y a une socialité, il y a une communauté dans l'event physique que tu as nulle part ailleurs. Si tu y réfléchis, en fait, aujourd'hui, t'as pas beaucoup de structures, t'as pas beaucoup d'endroits dans le monde où les gens se retrouvent sans se taper dessus, sans être en conflit. Même moi qui suis fan de sport, même un match de sport, tu vas dans une arène et c'est du 1 contre 1, c'est du VS. Là, les events, c'est les lieux où les gens se rencontrent, ils sont tous là pour la même chose. Et tu vois, là, il y a des études scientifiques, alors attention, je rentre pas dans les Some Study 7, tu vois. T'as quand même des études qui montrent que tu mets des gens dans une même salle et que tu mets le même son, leurs ondes cérébrales s'alignent. Je trouve que ça en dit long sur la puissance de ces événements-là. Maintenant qu'on a dit ça, si tu vraiment tu zoomates et que tu regardes un peu la big picture, désolé pour tous les anglicismes, mais nous, notre croyance fondamentale, c'est que, je sais pas si vous êtes familier avec la courbe d'adoption, la fameuse courbe d'adoption, innovateur, early adopter, etc. Je pense que fondamentalement, cet écosystème est aujourd'hui encore bloqué chez les early adopters. Quand tu fais un sondage autour de toi, selon nous, tu n'as pas encore suffisamment de gens qui, le vendredi ou le samedi, quand il s'agit de choisir entre justement rester chez soi ou sortir, font ce choix de sortir. Donc nous, notre vision, c'est dans 10 ans qu'en fait, sortir dans un événement, ça soit devenu mass market. Autant que Netflix est devenu mass market. Et toutes les questions qu'on va se poser, c'est un, comment est-ce qu'on aide les organisateurs d'événements à faire en sorte que l'offre événementielle permette ce shift? Et deux, côté B2C, avoir les plateformes et les outils de distribution qui vont simplifier cette décision. Voilà la vision à 10 ans.
Donc, encore une profondeur de marché à aller exploiter importante.
Immense.
Alors déjà, c'est le trentenaire qui parle avec un petit garçon. Déjà que les organisateurs de soirées avancent un peu l'heure des soirées, ça ira vers des consommateurs de plus vieux, 35 ans à peu près, la même génération que toi. Sur un sujet un peu plus sérieux, aujourd'hui, donc, vous êtes dans une étape de scale. Vous recrutez aujourd'hui des sales dans votre équipe? Et comment tu les recrutes aujourd'hui? Comment tu repères ceux qui, pour toi, sont vraiment les talents qui vont représenter l'image de marque de Shotgun, ses valeurs et ta vision que tu portes au final au quotidien?
On recrute. On recrute à plusieurs postes. On recrute notamment une ou un head of sales qui va venir justement structurer ces équipes-là. On recrute un sales en France et on va recruter aussi aux US. C'est très dur de recruter en réalité des sales pour nous parce que justement tu as une spécificité de ton marché qui, bon, tous les marchés sont spécifiques, mais tu as une spécificité de ton marché, tu as une spécificité de ton persona et tu as une spécificité de ton process de vente. C'est pas du cold calling, c'est pas de l'emailing, ça demande une inventivité. Ça demande d'être capable d'aller se rendre à un événement, d'aller le vendredi soir, aller rencontrer l'orienteur du monde dans sa soirée parfois. Ça demande d'aller à un festival, ça demande une connaissance artistique, ça demande une flexibilité, une adaptabilité. Si tu arrives effectivement et que tu prends ton process sales de façon trop industrielle, tu ne vas pas être écouté. Et nous, il faut qu'on valide en fait dans tous les process, il faut qu'on valide cette partie-là, cette partie humaine-là. Et ouais, c'est complexe pour nous.
Bon, ça, on pourra en reparler, bien évidemment. Si je devais, puisque là, je vais devoir pas tarder à clôturer quand même, parce que c'est extrêmement intéressant. Je te remercie vraiment de notre échange, parce que moi, ça me fait découvrir effectivement un autre univers qui est bien plus profond, celui du ticketing tel que je me l'imaginais. Prochain défi à réussir, là, sur ces deux prochaines années. Est-ce que c'est plutôt des défis techniques? Est-ce que c'est plutôt des défis de recrutement? Est-ce que c'est plutôt des défis d'internationalisation? Est-ce que c'est plutôt des défis concurrentiels? Si tu devais en choisir un sur lequel prendre la majeure partie de ton temps, ça serait laquelle?
Comme d'hab, je vais te faire une réponse en plusieurs étapes, c'est mon petit côté scolaire. Le défi technique, on l'a relevé, et shout out to ma team technique, la team product, on l'a relevé en 2022-2023, et aujourd'hui... si on est capable de vendre Shotgun, justement, c'est parce que en fait, ça se vend un peu comme des petits pains, quoi. Genre, tu montes le produit et en réalité, j'ai les effets wow en live dans les démos produits qu'on fait. On a vraiment des gens qui, aux US notamment, font wow. Donc le défi technique, relevé. Très court terme, le défi, c'est le recrutement. Il faut qu'on structure nos équipes de vente et qu'on muscle notre équipe de vente, très clairement. Parce qu'on est capable de vendre. Donc défi technique relevé, il faut des gens pour venir structurer la vente. Maintenant, j'espère que ce défi va être relevé rapidement, peut-être grâce à vous aussi. Là, le défi, ça va être le défi d'internationalisation et très principalement le défi des US. Il se passe énormément de choses dans l'écosystème aujourd'hui. Énormément de choses, que ce soit côté live event, côté compétiteur. Notre capacité à venir construire un pipe qui fit avec notre value proposition, qui aime notre produit, à mener des cycles de vente, à garder le rythme et en fait à construire une position, pas de leadership aux US parce que ça serait trop prétentieux à horizon moyen terme, mais simplement de challenger à minima, c'est ça le vrai défi pour nous sur les prochaines années, les deux prochaines années.
Bah, ça en fait quand même des sacrés défis. Hein. Ça va, t'arrives à prendre du temps un peu pour te reposer, du temps pour toi? Bien sûr, que tu bosses où tu bosses entre les US ou aux US ou en France? Tu mixes un peu entre les deux?
Je mixe entre les deux, ouais, effectivement.
Que là, vous êtes combien à Paris et combien aux US, combien au Brésil?
Alors, en France, parce qu'on a des bureaux aussi à Marseille, en France, on va être une trentaine, 30-40. Aux US, on est une petite dizaine. Au Brésil, à peu près pareil. Et on a aussi deux personnes au Portugal.
Dernière question, si je devais appeler quelqu'un que tu connais pour l'interviewer sur notre podcast de We Are Sales, c'est qui le prénom qui te viendrait en tête?
Mon associé, Romain. Parce que Romain, c'est mon co-founder. C'est lui qui a réussi à vendre Shotgun à l'époque. On n'avait même pas de produit. C'est quelqu'un d'ultra atypique qui est capable de vendre l'invendable. Alors que moi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que moi, il faut absolument que j'ai un produit ultra quali à vendre. Lui, il est capable de vendre. Dès qu'il il suffit qu'il y croie. Et il est capable de vendre n'importe quoi.
Bah Romain, peut-être attends-toi un coup de fil, que tu nous racontes l'histoire effectivement de comment tu as débarqué avec ton sac à dos, ton ordi au Brésil, en plein post-Covid pour aller organiser les events là-bas. Tristan, encore une fois, un énorme merci pour notre échange, vraiment
Merci à toi, Pierre
extrêmement
Michel.
inspirant. J'ai appris énormément de choses. C'est ça qui est génial sur ces plateaux, c'est que ça me permet aussi derrière de monter énormément en compétences, découvrir des nouveaux écosystèmes, des marchés qui se structurent, qui sont aussi très compétitifs, qui génèrent aussi pas mal de cash et de chiffre d'affaires, des technos qu'on amène aussi à l'international. J'ai hâte de continuer à suivre Shotgun, son histoire. Vous avez déjà une très belle histoire. 10 ans d'existence sur ce marché, c'est déjà un énorme succès en soi, parce que c'est bien de cartonner, de scaler, mais il faut rester aussi présent sur le marché. Et je pense que l'année 2023, dans le secteur de la tech et le Covid pour le secteur de l'événementiel, l'a rappelé. Donc la résilience et avoir les reins solides et avoir des founders qui le sont tout autant, c'est très important. Encore merci à tous nos auditeurs de We Are Sales, toujours aussi nombreux à nous suivre. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires très inspirantes.
Merci à toi.